La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie transmettra le rapport des droits de l'homme au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La liberté de la presse indonésienne est imitée par d'autres pays. La réunion des dirigeants de Scout d'Asie-Pacifique à Bali. Chers amis, nous présentons le journal complet. L'Indonésie participera à l'examen périodique universel des Nations Unies du 3 au 5 mai 2017 à Genève, Paris. Le directeur des droits de l'homme, la Direction générale des affaires multilatérales du ministère des Affaires étrangères, M. Diki Komar, a déclaré que dans l'examen périodique universel, l'Indonésie voulait ouvertement transmettre les progrès et les défis de la situation des droits de l'homme. Dans la conférence de presse récemment, Diki a déclaré que la délégation indonésienne sera dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Madame Retno L.P. Marsudi, et le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Yasona Lauli. Et lors de l'examen périodique universel, les 193 États membres de l'ONU subissent volontairement des processus d'examen périodique liés à la situation des droits de l'homme dans chaque pays. Il y a une variété de thèmes qui sera rapportée par l'Indonésie, y compris la ratification de la Conférence des droits de l'homme internationale.
Ada beberapa tema yang bisa kita sampaikan, misalnya saja ratifikasi konvensi HAM internasional.
Kemudian il y a des thèmes que nous pouvons dire, comme par exemple la ratification de la Conférence internationale des droits de l'homme et ensuite la coopération de l'Indonésie avec le mécanisme des droits de l'homme international. Et puis, le cadre normatif et institutionnel relatif aux droits de l'homme au niveau national, le thème de la coopération avec la société civile, y compris le développement des droits des femmes et d'autres groupes vulnérables. Selon Diki Komar, dans le rapport de l'Indonésie, comprendra également le thème de la loi ou des règlements locaux qui sont discriminatoires, la violence contre les femmes et les filles, la santé des mères et des enfants, les enfants qui doivent faire face à la loi, le groupe handicap, les travailleurs migrants, la liberté d'expression et de religion, la liberté d'association, la réduction de la pauvreté, les droits économiques et socioculturels. En plus de la présentation du rapport, le 5 mai sera adopté un rapport étant fait par le groupe de travail de l'examen périodique universel qui va approuver plusieurs recommandations qui ont été présentées par les pays dans les procès le 3 mai. La liberté de la presse en Indonésie a reçu l'appréciation de quelques pays. Le membre du conseil de presse, Madame Ratna Komala, a déclaré à la Radio République d'Indonésie dimanche que des aspects qui causaient la liberté de la presse en Indonésie étaient émulés par d'autres pays. Entre autres, l'Indonésie possède la loi numéro 40 l'année 1999 sur la presse, article 4, paragraphe 1, que la liberté de la presse est garantie comme l'un droit fondamental des citoyens. De plus, la communauté de la presse en Indonésie est capable de se réguler. Il n'y a pas d'intervention du gouvernement. Selon l'UNESCO, l'Indonésie en tant que pays peut appliquer la liberté de la presse parce que depuis l'époque de la réforme, Jakarta est devenu un baromètre de la vie d'une presse qui est libre, mais il est responsable. La liberté de la presse en Indonésie est déjà réalisée, mais le Conseil de la presse mène également des mesures pour anticiper afin que la liberté ne soit pas transmissibilité. La 9e réunion des dirigeants de Scout de l'Asie-Pacifique est suivie par 152 délégués et les invités de 30 pays tenus à Sanur, Bali, pendant 4 jours jusqu'au 25 avril 2017. Le président du quartier national de Scout, Adiaksa Daoud, lors de la cérémonie d'ouverture à Sanur, a déclaré samedi qu'elle appréciait la mise en œuvre des activités de la réunion di Dirijang Deskut de l'Asie Pacifique en 2017 à Bali. Il espère que le mouvement de scouts pouvait continuer à jouer le rôle important dans les activités de scoutisme mondial. L'augmentation des membres du mouvement de scouts d'un million, si bien que le nombre de ses membres devient 22,7 millions de membres en 2023. Adiasa Daoud a déclaré que la réunion triennale visait à définir la direction de la politique de développement de scouts dans chaque pays. Son objectif est de résoudre des défis et des obstacles et de se mettre d'accord sur la direction et la mesure de scouts de l'Asie Pacifique. Selon lui, cet événement est de plus en plus stratégique parce que l'organisation de cet événement est avant la 40e conférence mondiale de scoutisme tenue à Baku en Azerbaïdjan en août 2017 et la 27e conférence de l'Asie Pacifique Scout aux Philippines en 2018. La province du nord de Sulawesi exporte la farine de noix de coco vers Hong Kong pour répondre aux besoins de personnes à Hong Kong envers ces produits. Presque chaque mois, il y a une expédition de farine de noix de coco vers Hong Kong et une grande quantité. Au début d'avril 2017, 12,7 tonnes de la farine de noix de coco a été exportée vers Hong Kong. C'est ce qu'a déclaré le chef des affaires de commerce extérieur du département de l'industrie et du commerce de la province du nord de Sulawesi, M. Darmin Muksin, à Manado. Selon lui, Hong Kong deviendra un marché potentiel de l'exportation de farine de noix de coco du nord de Sulawesi, parce que la tendance de la croissance des exportations vers ce pays est assez élevée. Il expliquait que le marché de Hong Kong est très grand. Si les produits qui sont générés ont la bonne qualité, sans aucun doute que la demande augmente, ainsi il a fait appel à exportateurs de Sulawesi du Nord, notamment l'exportateur des produits dérivés de noix de coco, d'améliorer la qualité et la quantité des marchandises. Le gouvernement est prêt à faciliter et à trouver de nouveaux marchés pour tous les produits d'exportation de Sulawesi du Nord. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre de l'Industrie, M. Erlangga Hartanto, a déclaré que le renforcement des capacités des ressources humaines comme l'un des principaux piliers de la politique d'équité économique qui sont réalisés, entre autres à travers des programmes d'éducation et de formation professionnelle. À cette fin, le ministre de l'Industrie est désiré de construire une formation professionnelle qui a le concept de lien et le correspondant entre les acteurs de l'industrie avec l'enseignement professionnel. C'est ce qu'a affirmé le ministre indonésien de l'Industrie, M. Erlangga Hartanto, après le lancement du programme de formation professionnelle de l'industrie à Semarang, Java Central, dimanche. Le ministre a déclaré que l'Indonésie actuellement jusqu'à 10 ans dans l'avenir bénéficieront de bonus démographiques où la majorité des habitants sont à l'âge productif. Par conséquent, le ministre de l'Industrie a invité 117 entreprises à signer un accord de coopération avec 389 lycées professionnels dans un effort pour effectuer des programmes de formation professionnelle dans les régions de Java Central et de Yogyakarta. Ce programme est une continuation de ce qui a été lancé à Mojokerto le 28 février 2017, impliquant 50 entreprises et 234 lycées professionnels à Java Est. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.